9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Oh là là, il reste tellement de choses à faire.
Bonjour Alex.
Salut Clara, excuse-moi, je suis pas prêt pour aujourd'hui.
Non mais ça c'est normal, il est 9h du matin, l'émission commence à 17h.
Je sais pas pourquoi il est comme ça, on est cool là, Charlie n'est pas là.
Oui, bah aujourd'hui c'est une journée particulière, je vais partager le micro avec mon idole, donc c'est beaucoup de stress. Et...
Non mais ça va, relax, mais... il faut pas être impressionné par ses idoles.
Enfin Alex, c'est juste Clara.
Et j'ai le regret de t'annoncer que Guillaume est toujours là apparemment.
Non, vous vous rendez pas compte, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier.
Non mais là ça me touche, mais c'est trop Alex.
Mais si je vous dérange, vous me le dites, hein.
Non mais il faut pas te mettre la pression comme ça. Après tout, on travaille souvent ensemble.
Non mais c'est quelqu'un que j'ai vu quand j'étais gamin.
Ah oh, bah ça va, oh, je suis pas si vieille que ça.
J'allais au théâtre du Rond-Point, tout
le
seul.
Rond-Point.
Ah. Ils jouaient 6 spectacles en même temps, je les ai tous vus.
Mais j'ai jamais eu de spectacle.
Là, attendez, parce que là, je pense qu'on est sur un quiproquo.
Alex, c'est qui ton idole?
Bah c'est notre invité, c'est le génie du seul en scène, c'est Philippe Cobert.
Ah voilà, ouais, cool.
Cool? Mais c'est pas cool du tout, Guillaume, c'est une énorme responsabilité.
Ah bah c'est ce que je disais.
Bon, moi je vais prendre un café. Hein.
Non, personne ne va prendre un café. Ouais, personne ne sort de ce bureau tant qu'on n'a pas 3 remèdes de doc sur Cobert.
Mais voilà. Tu fais comme la stagiaire, tu regardes sur Wikipédia, voilà.
Et je veux qu'on ait 3 bons sujets. Voilà. Faut rien laisser au hasard quand c'est un bonhomme comme ça.
Voilà. Calmos, son directeur aussi, c'est ton idole.
Un peu.
Ouais, mais relax, Clara. Tu disais tout à l'heure, faut pas être impressionné par ses idoles.
Ouais, mais...
Eh oui, moi je sais. Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'émission qui, à l'inverse du gouvernement, a décidé de prendre un homme à sa tête. Et voici donc la devise du jour, elle est d'un certain François Giroud. L'homme sera vraiment l'égal de la femme le jour où, à part Jupiter, il y aura un présentateur incompétent. Et je pense, ce jour est arrivé. Il me fallait donc être épaulé par une femme compétente à mes côtés. On est au-delà de la compétence, c'est vous Clara Dupont-Moleau, bonjour.
Bonjour Alex. Vous serez mon sous-secrétaire d'État adjoint à la Loose, grande cause nationale 2022.
Je vous remercie. Quel sujet d'actualité avez-vous choisi?
Eh bien hier, fin du suspense, Elisabeth Borne a été nommée première ministre. Et oui, vous avez bien entendu, parce que à part Aliénor d'Aquitaine, une femme à Matignon, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. C'est les garçons qui vont être contents.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Oh putain. Oh là.
Les journaux ont leur marronnié. La galette des rois en février, les allergies au pollen au printemps et les demandes d'extradition des brigades rouges. 60 ans après, ce sujet crée toujours le débat entre la France et l'Italie. Un débat, disons, mesuré.
Des gens comme ça, on devrait les dénoncer. Ce sont des traîtres, parfaitement des traîtres, au même titre que les espions allemands.
Tout en délicatesse donc. Hein. Il y a des fins qu'on espérait, celle du Covid ou celle de la carrière musicale de Guillaume Meurice. Et puis, il y a des fins qu'on n'imaginait jamais voir, comme celle du feuilleton Plus belle la vie. Et pourtant, son arrêt est annoncé pour le 30 septembre, fin d'une époque. Et vraie question, mais... qu'est-ce qui va remplacer Plus belle la vie?
Président, je suis content de vous tenir. Il faut que je vous parle de mon projet. Démission de 20h30. Vous savez, c'est très simple. Un couple, un bon voyage et une histoire de cul à la clé. Vous aimez le cul, président?
Merci pour ce projet, Clara Dupont-Moleau. Et une toute belle équipe, évidemment, aujourd'hui, 17h20. Celle qui nous a promis une exclusivité mondiale. Et ouais, je vais vous dire, moi, à chaque fois qu'elle passe un disque, pour moi, c'est une exclusivité mondiale. C'est vous, Mélanie Bauer, bonjour.
Ouais, je risque de vous perdre un peu cette fois. Aujourd'hui, vraiment.
Ça n'est jamais arrivé.
Vraiment, je me suis fait plaisir.
Aïe, aïe, aïe. Et ben voilà.
Et c'est le nouveau Stupéflip qui sort en septembre.
Ah, mais oui, c'est bien, voilà.
17h30, celui qui pourrait s'inspirer de Daudet et écrire les lettres de mon micro.
Oh, c'est beau,
Guillaume Meurice,
c'est
bien
beau, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Moi, je suis allé à l'Assemblée Générale de la BNP, figurez-vous, ce matin, parce que j'ai une vie de rêve.
Vous y attendez?
Non, voilà, non. Bah, c'est la banque des paradis fiscaux, des énergies fossiles. J'ai rencontré des actionnaires choqués. Hein.
Ça me dérange pas.
Ouais, pas que choqués.
Et 17h40, il est la révélation de cette année, le chroniqueur qu'on n'attendait pas, et pourtant, il est là, c'est le Fabien Roussel de cette émission. C'est vous, monsieur Poulpe, bonjour.
Bonjour, quel plaisir de vous retrouver une énième fois.
Et
moi, je vais parler de Philippe Cobert qui m'a énormément marqué dans un de ses rôles. Et aujourd'hui, j'ai essayé de créer un ersatz, mais évidemment bien moins que le vôtre.
Ouh là, il y a de l'hommage en perspective.
Et c'est donc Philippe Cobert l'invité.
Eh bien oui, celui qui va donner un air de Provence à cette émission. Vous êtes.
Oui, Alphonse Daudet.
France Inter. Michel Drucker. Non, Alex Vizorek, Clara Dupont-Mono.
Par Jupiter.
Je crois qu'ils se sont moqués de moi, Philippe. Parce que, évidemment, je vais dire du bien de vous, je vais dire que je vous adore, vous m'avez donné envie de faire ce métier. Écoutez, donc, voilà.
J'ai eu bien raison, alors. Tant mieux.
Bah, je vous remercie.
Parce que j'ai vu le résultat.
Et en plus, nous avons partagé la loge au Théâtre de l'Œuvre et vous jouiez déjà ce spectacle, ces spectacles pour lesquels vous êtes nommé, Les Lettres de mon Moulin d'Alphonse Daudet, que vous jouez encore en tournée, à Valras-Plage bientôt, à Rognac. Et puis, vous préparez le troisième volet.
Exactement.
Pour Avignon cet été.
Ouais.
C'est dont le titre je l'ai
Les Étoiles.
Voilà, les étoiles.
Les étoiles.
Où vous jouez.
Je vais créer Fontvieille, château de Fontvieille, là où Alphonse Daudet écrivait ses lettres.
Ben voilà, ça commence
avant Avignon.
Le premier spectacle, c'est Alphonse Daudet qui explique qu'il achète un moulin.
Oui, exactement, ce qui est complètement faux, il a jamais acheté de moulin, il a pas du tout écrit ses lettres dans un moulin, il a écrit dans un très beau château, le château de Vauvenargues. Qui voyait non, c'est pas Vauvenargues, d'ailleurs, c'est un autre nom, je crois, je m'en rappelle plus.
Donc le moulin qu'on voit à Fontvieille, c'est pas le vrai.
C'est le moulin qu'il imaginait, dans lequel il imaginait à travers la fenêtre du château écrire ses lettres. Et pour moi, c'est devenu son moulin mental. C'est ça, le moulin, c'est sa tête, quoi. C'est son imagination.
Et alors, pourquoi vous avez voulu faire ce premier spectacle en deux volets où on retrouve le tube, la chèvre de Monsieur Seguin, mais aussi la mule du pape ou l'élixir du révérend Père Gaucher. Mm-hmm. Pourquoi ces deux-là fonctionnaient ensemble et que le troisième, qui peut-être n'est pas tout à fait de la même veine, arrive après?
Ben déjà, les deux premiers, ça a été au grand désespoir de ma productrice et plus que compagne, Véronique Coquet, qui m'a dit « Oh, putain, deux spectacles, ça va être encore la galère. » Elle s'est pas trompée.
Parce vous que venez de 6 à l'époque.
Je voulais pas être frustré, je voulais vraiment jouer toutes les lettres, les trois messes basses, la chèvre de Monsieur Seguin, tout. Et un seul spectacle, c'était 3h30, j'ai plus l'âge, j'ai plus 50 ans. Donc je l'ai fait, je peux plus le faire. Et puis même, c'était pas convenable par rapport à la nature des spectacles. Et puis en travaillant sur les lettres, et puis grâce, je dois beaucoup de confinement successif et à l'angoisse violente que le second surtout a suscité, j'ai commencé à replonger là-dedans et j'ai vu qu'il y avait un troisième aspect d'Alphonse Daudet qui était nocturne, fantastique, amoureux, sentimental. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien un troisième, parce que les deux premiers, c'est le cagnard, il y a un plein feu, ça peut se jouer partout, je l'ai joué partout. Mais celui-là, c'est nocturne, il y a des musiques, il y a des éclairages, c'est l'inconscient des deux premiers. Voilà, c'est le rêve.
Et celui-là, vous le jouez à 19h40 à Avignon, du 7 au 30 juillet,
festival. À la Condition des Soies.
Condition des Soies. Quand on a passé de nombreuses années à jouer du soi-même, parce que vous avez joué du Philippe Cobert pendant de nombreuses années, comment on revient à un auteur et pourquoi celui-là?
Mais c'est pas la première fois, vous savez, j'ai monté aussi André Benedetto, j'ai monté André Suarez.
Certains Molière aussi que vous avez joué?
Ah oui, ça non, ça c'est autre chose. Ça c'était du temps de ma jeunesse où je faisais du théâtre à plusieurs.
Oui!
Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. C'est-à-dire, d'un coup, il y a un texte, que ça soit par exemple Marseille ou d'André Suarez, le texte sur Marseille, ou les poèmes d'Aragon, ou d'un coup, je vois quelque chose, je retrouve quelque chose de mon enfance, de mon adolescence, de mon rêve de théâtre, tel qu'il s'est formulé quand j'étais jeune homme, et je passe à travers les mots d'un autre, quand je joue Aragon, je me rends compte que c'est nettement mieux écrit que Philippe Cobert, puisque je parlais de moi à la troisième personne. Donc voilà. Donc ça me fait du bien aussi. Il en avait de même pour Alphonse Daudet. Alors Alphonse Daudet, c'est encore pire. Vraiment, je vous ai répondu tout à l'heure. Je suis Alphonse Daudet. Donc
oui,
je me prends pour lui et je m'amuse à prendre pour lui.
C'est quoi votre rapport? Vous vous souvenez de la première fois où vous avez lu ces lettres? Parce que vous êtes de là-bas. Vous êtes un peu plus en dessous que Fontvieille et le Moulin. Mais
Marseillais.
Vous êtes, voilà. C'est quoi votre premier rapport avec Daudet?
J'en ai un souvenir d'enfance, comme tout le monde, la chèvre de Monsieur Seguin. Non, il y a une histoire, une des lettres que je lis, qui s'appelle La légende de l'homme à la cervelle d'or, et qui m'a poursuivi pendant toutes ces années. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a une cervelle en or, et il enlève des bouts de sa cervelle, et puis un jour il a plus rien, et il erre dans les rues hagard. Et tout le long du roman d'un acteur, de tous mes spectacles, j'ai tout improvisé tout ça en deux fois. Une fois en 81, pendant neuf mois, une fois en 93, en en 9 mois. Et je me disais, un jour, j'arriverai, et pendant 40 ans, j'ai livré tout ça. Un jour, j'arriverai au bout. Et j'aurai, comme l'homme à la Savale d'Or, les mains crampes sanglantes, les doigts machin. Il n'y aura plus rien. C'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que j'ai trouvé, les doigts sanglants et les ongles, voilà, j'ai trouvé les lettres de mon moulin. Donc, voilà.
On part sur du plateau.
Je suis reparti sur l'origine.
Après l'or. Les lettres de mon moulin, le troisième volet que vous jouerez à Avignon pendant ce festival off du 7 au 30 juillet. Le lundi, vous vous reposez, mais sinon, ce sera tous les jours. Merci Philippe Cobert d'être avec nous. C'est Michel Drucker-Vizorek qui le dit.
Très honoré, doublement honoré.
Écoutez, Gérard, je viens un petit peu sur ce côté-là, mais j'ai tout pris à Michel. On va écouter un peu de musique. Redbone sur France Inter. Redbone sur France Inter, Come and Get Our Love, qui est un peu le leitmotiv de cette émission. Venez et recevez tout notre amour, Clara Dupont-Mono. Oui, c'est de l'anglais. En fait, c'est une langue parlée, c'est au-delà des frontières, hein, mais donc si vous traduisez, ça donne à peu près ça, hein, évidemment. On perd évidemment la finesse, hein, du langage.
Allez, il est 17h21 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, Philippe Cobert est avec nous. Il est nommé au Molière le 30 mai et sera à Avignon cet été avec les Lettres de mon moulin. Et qui l'accompagne autour de la table? Je vais répondre à Alex Vizorek. Il y a la femme savante de l'émission, Mélanie Bauer, le Don Juan, Monsieur Poulpe.
Ah non, je pensais que c'était moi, d'accord.
Non, non, et le Tartuffe,
C'est plus approprié. Allez, enlevez votre cape de Tartuffe et faites le journaliste. C'est parti pour les infos.
Il va falloir demain construire une équipe. Est-ce que vous pourrez en prendre votre part en rejoignant cette équipe si on vous le propose?
Moi, je peux toujours servir mon pays. C'est d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Le journal de presque 17h17.
Manu, tu m'assois à droite à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu as emmerdé. À droite à gauche, on s'en fout.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron a donc nommé Elisabeth Borne première ministre.
Et oui, elle quitte les bureaux du ministère du Travail rue de Grenelle dans le 7e arrondissement pour rejoindre Matignon dans le 7e arrondissement. Comme quoi il avait raison, Macron, pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue.
Et Elisabeth Borne dédie sa nomination comme première ministre à toutes les petites filles.
Et oui, c'est vrai, qui ne connaît pas autour de lui une petite fille qui rêve de devenir Elisabeth Borne, bien
c'est
évidemment.
C'est le rêve. Et est-ce qu'il y aura des brèves, Alex? On me signale que non.
Oui, si. voilà.
Ah, c'est alors, dommage.
Comme Emmanuel Macron, pas de surprise. Okay, je garde les brèves.
Ok.
Et oui, et cette nomination a été bien commentée.
Oui, alors tenez-vous bien du côté de l'opposition, ils trouvent que c'est pas un très bon choix.
Mais non.
Mais oui, c'est surprenant. Pour Adrien Quatennens, Elisabeth Borne est, je cite, l'élève zélé d'Emmanuel Macron.
Ah bah, s'il y en a un qui a une tête de premier de classe et qui est vraiment l'élève zélé de quelqu'un d'autre, c'est quand même bien Adrien Quatennens.
Et invité sur RTL ce matin, Éric Zemmour refuse d'employer le terme de première ministre en déclarant que c'est moche à l'oreille.
Eh oui, ça c'est pas mal comme argument. Et qu'Éric Zemmour tienne des propos sexistes, par contre, c'est malheureusement pas une première.
En revanche, du côté de la majorité, Richard Ferrand a quant à lui déclaré, je le cite toujours, le président de la République a toujours choisi d'excellents premiers ministres.
Et il est bien placé pour le savoir puisque Macron lui a jamais proposé un poste.
C'est bien foutu la vie parfois. À noter à l'actif de la nouvelle première ministre, d'après l'INSEE, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2008.
Et ouais, et c'est fou. À croire que le dernier qui galère vraiment à trouver un boulot, c'est Manuel Valls.
Pauvre Manu, pauvre
et c'est
Manu.
À vous encore.
Alors passons à la polémique de la semaine.
Excusez-moi, je pense que j'ai inversé les couleurs.
Pas de problème, on est des professionnels. On parle de la polémique en autorisant dans les piscines municipales, après un long débat sur la laïcité, la ville de Grenoble relance le débat sur le burkini.
Et oui, c'est là qu'on voit les effets du réchauffement climatique, l'impression que les saisons raccourcissent puisque le débat sur le burkini tombe beaucoup plus tôt. Cette année, c'est le 17 mai, c'est fou.
C'est vous, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé qu'il retirait ses subventions à la mairie de la ville.
Et oui, comme quoi, c'est là qu'on sent que le burkini, c'est vraiment un gros problème.
Très, très, très gros problème. Ouais. Enfin, vous pouvez pas dire ça quand même.
Si, je peux, c'est quand même un gros problème parce que à cause du burkini, on entend à nouveau parler de Laurent Wauquiez.
Ah oui, alors là, c'est un gros problème. D'accord. International, alors qu'en Corée du Nord, l'épidémie de Covid-19 semble hors de contrôle, Kim Jong-un a fustigé les autorités sanitaires.
Et on le voit un peu arriver. En Corée du Nord, il y aura des membres des autorités sanitaires qui vont mourir à cause de la Covid sans jamais l'avoir contracté.
On pense à eux. Cinéma, le festival qui va débuter avec en guise d'ouverture la projection du
festival
film.
De Cannes.
Festival de Cannes, bien sûr. Il manque des mots dans le journal. C'est un journal que vous pouvez compléter chez vous. Voilà, c'est un petit jeu. Festival de Cannes qui va débuter avec en guise d'ouverture la projection du film de Michel Hazanavicius, Coupé.
Coupé, hein, dont le titre peut être trompeur, c'est un film de zombies et non pas le biopic d'un rabbin.
Oui. Oui, mais c'est important de préciser.
Oui, oui, c'est un petit peu rigolo.
Dans ce journal. En football, l'ancien joueur Tony Vérel a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour violence avec arme.
Et il était temps, parce que moi, ça fait des années que je te l'aurais condamné, moi.
Ah, vous étiez au courant des faits de violence?
Non, c'est pour la coupe Mulet. Qui a porté pendant des années perpétuité. Si vous ne voyez pas qui est Tony Vérel, tapez sur Internet et vous allez être d'accord avec moi.
Sauf si vous êtes allergique au mulet.
Évidemment.
Et il n'y aura donc pas de brèves.
Si,
il y a des brèves. D'accord.
C'est pas écrit, ça, qu'il n'y en avait pas. Dans les Ardennes, et ça, j'ai trouvé ça très beau, les gendarmes saisissent 600 litres d'alcool et précisent qu'ils ne les ont pas consommés. Et quand on est au stade de devoir le préciser, c'est qu'on est déjà un petit peu suspect.
Allez, une dernière.
Et la dernière, un homme de 54 ans a été condamné à 1 500 € d'amende pour avoir menacé Benoît Hamon devant son domicile. Reste à savoir comment Jean-Luc Mélenchon connaissait l'adresse. Merci Guillaume.
Ouais,
il manquait quelques mots, mais vous êtes doué. Hein.
Oui, bon, on retombe sur nos pattes.
C'est un professionnel du micro, on le constatera encore tout à l'heure. Avant cela, Clara Dupont-Mono, Monsieur Philippe Cobert a préparé les thèmes d'actualité avec vous. Vous nous aviez envoyé quelques-uns, elle en a choisi parmi cette liste et d'autres elle-même comme une grande. On commence par quoi?
Alors il y a des choses qui arrivent tous les 30 ans. Comme une victoire de la France à l'Eurovision. Guillaume Meurice qui fait preuve de bonne foi. Il y a encore 30 ans, oui, je suis large.
J'ai 40, hein, donc.
Voilà. Ou encore une femme première ministre. Eh oui, les femmes sont entrées dans l'histoire, mais les hommes, eux, ont du mal à la faire entrer à Matignon.
Mais enfin, c'est pas possible, Ed. Tu pètes un câble ou quoi? Non, non, ça me gonfle. Tu sais que j'aime les nanas parce qu'elles me font dresser mon engin, mais elles n'ont rien à foutre aux infos. C'est un terme masculin, sans équivalence au féminin, et c'est un fait. Ted Notaviron, qu'est-ce que t'en penses?
Fais chier! C'est un cauchemar, elle a de beaux yeux et une chevelure qui s'embourre le nez d'amande.
La jurle aussi!
J'ai lu que quand elles sont indisposées, elles attirent les grosses bêtes. Les bêtes qui flairent la menstruation.
Ben ça, c'est d'une finesse. T'entends ça, Ed? Des bêtes. Voilà que tu mets toute la chaîne en péril.
Et oui, c'était pas une chronique d'Emeric Lompré, mais Anchorman, le film de Adam McKay. Alors, Philippe Cobert, vous nous avez proposé donc de parler des femmes qui ont changé le monde.
Oui.
Et ça tombe pile le lendemain de la nomination d'une femme à Matignon. Alors, est-ce que c'est utopique de penser qu'une femme nommée à Matignon peut changer le monde?
Je ne sais pas si c'est particulièrement une femme ou un homme, mais en tout cas, si quelqu'un de Matignon peut changer le monde, je ne sais pas. C'est sûr qu'une femme à Matignon, ça change beaucoup de choses quand même. C'est... Alors, ça me fait quand même, je pense à Edith Cresson. Et je pense à... J'espère vraiment que ça portera pas malheur à notre nouvelle première ministre. Et surtout, je pense que ça me rappelle l'effroyable injustice qu'a subie à l'époque Edith Cresson, qui était une femme d'une très grande valeur. Et que vraiment, je pense qu'elle a payé pour Elisabeth Borne, pour qu'on laisse travailler Elisabeth Borne. Maintenant qu'une femme ait le pouvoir, c'est quand même, c'est certainement dans le mouvement actuel des femmes une des choses les plus, pour moi, les plus essentielles, les plus importantes. J'ai des visions critiques sur des tas d'autres aspects, mais sur les égalités de salaire, sur le pouvoir en particulier. Parce que je pense que les femmes, la plupart du temps, sont plus fortes pour exercer le pouvoir que les hommes. Ça, c'est mon idée. J'ai été élevé par une femme, dressé, formé par une femme.
Salut,
je parle pas de ma mère.
Non, mais justement, vous évoquiez Edith Cresson. Edith Cresson, c'était donc en 91, hein, faut quand même
oui,
le rappeler.
Ouais.
Il se trouve qu'elle avait une longue carrière ministérielle derrière elle, et pourtant, elle s'est quand même heurtée à la violence masculine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette violence politico-médiatique, elle est atténuée et que les mentalités ont évolué.
Je pense que quand même, il y a eu non seulement du travail, mais il y a de la poudre dans l'air, quoi. Il y a une sacrée. Je pense qu'on pourrait plus se permettre aujourd'hui, en effet, certaines attaques de l'époque. Je pense aussi à une autre chose, par exemple, les moqueries sur la robe de Cécile Duflo, des choses comme ça. Je pense que quand même une des grandes vertus de la révolte, et pour certains de la révolution féministe, c'est là quoi.
Il y a Mathilde Panot qui a été traitée de poissonnière quand même il y a quelques mois, ça évolue.
Oui, non,
lentement,
je dis pas que c'est fini de toute façon, mais non, je pense que quand même c'est maintenant ça suffit pas. Il faut que ça soit une bonne première ministre et je le souhaite vraiment de tout mon cœur et de toute ma pensée.
Parmi les femmes que vous vouliez, quand vous avez donné ce sujet, vous pensiez à qui parmi les femmes qui avaient changé le monde,
Ça n'avait rien à voir. J'avais écrit Anaïs Nin, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg. C'est dans mes notes intimes comme ça que je suis allé chercher parce que je me dis mon Dieu, les sujets d'actualité, il y en a tellement. Et en effet, pour dire. Ça, c'est contradictoire. Pour dire, avant que la révolte féministe actuelle ait lieu, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont changé le monde, qui n'ont pas attendu cette révolte et qui, d'ailleurs, ont eu d'autant plus de mal. Mais le pouvoir des femmes, il date depuis longtemps et ça fait longtemps qu'il y a des femmes qui se battent.
Aliénor d'Aquitaine.
Oui, dans le théâtre, Ariane Mnouchkine, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont fait le monde.
Et pour avoir vu votre productrice et compagne travailler avec vous, on sent bien qui c'est qui gère l'équipe.
Ça, c'est une autre histoire.
Merci, Philippe Coubert. Oui. C'était Mélanie Bauer. Bon, on l'attend avec impatience parce qu'elle s'est fait plaisir. Donc là, voilà, allez-y.
C'est écrit sur. Je peux le dire quand même. C'est écrit ça.
Oui.
Je ne vous cache pas. Aujourd'hui, je me fais plaisir.
Oui, c'est bien.
Voilà. Parce que l'album ne sort qu'en septembre, mais j'en pouvais plus d'attendre pour en parler aux auditeurs. Parce que non seulement je suis fan, mais en plus j'aime tendrement depuis 20 ans les gens qui font ou qui gravitent autour de ce projet fou de la musique. Stupéflip est revenu. Le cinquième album s'appelle Stup Forever. Et vraiment, on n'est pas déçus. Bah oui, King Ju, c'est le nom du compositeur-rappeur du Stup. King Ju a perdu en agressivité ce qu'il a gagné en sagesse. Il n'est plus le plus petit garçon terrifié, interprété par Cadillac en 2005. Vous savez, celui qui découvre qu'il y a un acteur dans la peau de son héros de Lilo aux enfants, Casimir. Il y a un acteur, il a une tête d'homme. Bon, bref, il est adulte, déconcerté par la violente bêtise du monde et il crie « Vengeance !»
Quand j'étais tout petit, je suis allé au guignol. Et je voyais les autres enfants qui riaient très très fort quand il y avait des coups de bâton. Et moi j'étais le seul enfant à ne pas rire. J'étais effaré de voir à quel point ce spectacle si violent pouvait les ravir de joie.
Ayant subi de sérieux traumatismes durant son enfance, se servira du gros stupéflip pour régler ses comptes avec la société.
Eh oui, il s'y connaît en emmerdeur, King Juche, il est rappeur. Mais il n'est pas que ça, hein. Il est aussi extrêmement populaire, il a des centaines de milliers de fans. Il vit retranché dans son HLM, chante caché sous son masque, tout dégueu de film d'horreur. Il a même refusé de jouer à Bercy, hein, ça nous la coupe ça. Parce que dans sa grande complexité, il est à la fois fan de variété, il sait imiter tous les chanteurs, son hommage à Mylène Farmer est à mourir de rire, mais il déteste tout ce qui se rapproche de près ou de loin du bling-bling ou du people. Il est misanthrope par nécessité, trop sensible et trop intelligent pour l'agressivité des bêtes.
J'étais à la supérette en train de faire mes courses et il y avait une longue queue de 3 km, man. Et il y avait une petite dame devant moi et devant elle une espèce de connard qui lançait déjà des mauvaises vibes, man. Et là, il y a une autre caisse qui se libère. Alors la petite dame, elle y va, il commence à lui gueuler dessus.
C'est à moi, c'est mon tour, t'as compris,
non, je lui dis oh, doucement, man. Un mal élevé, man.
Ce sens, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en mineur.
Mais oui, c'est nul, les gens qui s'énervent. Bon, alors, pour les fans, vous allez retrouver tout ce que vous aimez dans Stupéflip. Hein. Les copains, donc Cadillac, MC Salo, Popip, qui est ressuscité. Les interludes entre les morceaux, les balades qui touchent au cœur et les matraques qui font danser la tête. Et bien sûr, les dessins de Julien, le King Ju. Tout un univers graphique unique, basé sur les comics et les films d'horreur. À noter d'ailleurs la sortie cette semaine du premier clip de l'album Un bijou, ça se passe dans un cimetière. Le premier single Ego Trip qui explique bien la position du King face à la nouvelle scène rap. Il pense pas du tout pareil d'eux que vous allez voir. C'est dans ton baladeur Stupéflip.
Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur,
baladeur. Que des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur,
baladeur. Que des balles dans ton baladeur.
Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, sont rendus responsables de leur propre misère.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, 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 baladeur.
Que des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, 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 baladeur.
Que des balles dans ton baladeur.
Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent
c'était trop gentil, maintenant fini de se faire avoir.
Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
C'était trop gentil,
que des balles dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Il est passé. Stup Forever, le nouvel album, c'est en septembre. Et ce morceau-là, il existe déjà hein, dans ton baladeur.
Bah, vite, vite, on fonce dessus, bien sûr.
Bah, évidemment.
Merci, Mélanie Bauer. Je vais vous dire, je m'attendais à pire.
Ah bon?
Je trouvais ça sympa, je trouvais ça intéressant.
Ça, c'est parce que ça plaît à Poulpe.
C'est parce qu'il parle en français. Du coup, ça m'aide à comprendre ce qu'il raconte. Merci à vous. Nous sommes toujours avec Philippe Cobert qui vient nous parler d'Alphonse Daudet, qu'il jouera cet été à Avignon, Les Étoiles. À la condition de la soie pendant tout le festival. Mais vous vouliez aussi parler, et je vais vous laisser une minute pour en parler, parce que vous êtes le parrain d'une association. Vous vouliez parler des enfants français abandonnés dans les camps de prisonniers en Syrie.
Je comprends pas, puisque j'ai entendu l'autre jour Emmanuel Macron dire qu'une des priorités de son nouveau quinquennat serait les enfants, le sort des enfants. J'ai aperçu aussi une émission sur la Première Dame, sur Brigitte Macron, parlait beaucoup aussi des enfants. Et je ne comprends pas comment on peut, à côté de ça, laisser des enfants français, puisqu'ils sont français, passer 3 ans à voir leur mère mourir à côté d'eux, les abandonner, les laisser là-bas. Alors si, je comprends qu'il y a des raisons électoralistes et des raisons d'opinion publique, mais je trouve ça monstrueux. Et je trouve que ces enfants doivent revenir en France avec leur mère, que leur mère doit être jugée, bien sûr, mais en France, et que l'Allemagne, la Belgique a déjà fait la même chose, et qu'abandonner des enfants français dans des conditions pareilles et un tel martyr et une telle destruction, c'est en plus, je pense, se retourner contre nous, c'est très dangereux, parce qu'évidemment que Daesh est toujours là-bas et fera tout pour faire de ses enfants des combattants. Enfin, on peut trouver toutes les raisons, mais surtout les raisons humaines, simplement et nationales. Je trouve ça plus que pas bien, je trouve ça honteux.
Et concrètement, il y a une association qui existe, qui leur vient en aide?
Oui, alors mon amie Marie Dosé, qui est une avocate combattante, qui mène un peu tout ça. Mais je fais partie de cette association. Je parraine un de ses petits enfants, et mon filleul s'appelle Souleyman Vallée.
Eh ben écoutez,
Souleyman, je t'embrasse.
Eh ben, si tu m'écoutes, France Inter.
J'espère, il a 7 ans, eh ben, peut-être, écoutez. On sait jamais, ou que quelqu'un lui apportera un message audio, mais voilà, c'était, je pense,
bien
à lui.
D'en parler, merci Philippe Cobert pour cet aparté. Nous allons nous lancer avec
la
Guillaume
transition.
Meurice.
La transition, elle est abrupte.
Non, Guillaume Meurice, ça fait la transition.
Moi, je vais vous parler de la BNP Paribas aujourd'hui. C'est la banque d'un monde qui change. Enfin, quand je vous dis, je vais vous parler. Enfin, moi, j'avais envie de parler avec eux. Alors, j'ai demandé une accréditation pour assister à l'assemblée générale de la BNP qui avait lieu ce matin. Mais eux, ils n'avaient pas trop envie de me parler. Ils m'ont dit non, plutôt ne viens pas, s'il te plaît. Mais bon, bah moi, vous me connaissez. Quand j'ai très très envie de parler comme ça, de discuter, j'ai du mal à me contenir. Alors, j'y suis allé quand même, hein, comme l'aurait fait un mec, relou, ouais. Hein, relou tout simplement. C'était au cas où c'est du Louvre, grande salle avec des actionnaires qui venaient de la France entière, parce que la BNP, c'est la plus grande banque française, c'est vraiment les champions, ils sont partout sur tous les événements, c'est un peu la Alex Vizorek des banques, si vous voulez. Et alors, ils sont tellement partout qu'ils ont des filiales dans des paradis fiscaux, à peu près partout. Ça, bon, personne n'est trop étonné. Et les actionnaires, figurez-vous, je les ai interrogés, ça les préoccupe beaucoup.
Je m'en fous complètement.
Vous vous en foutez complètement? Qu'il y ait plein de filiales dans les paradis fiscaux, vous vous en foutez?
J'en suis pas responsable. Vous êtes à quelle banque, vous?
Moi, je suis Crédit Coopératif.
Ça existe, ça?
Ah, oui, alors...
Parler
Crédit Coopératif à des actionnaires de la BNP, bon, c'est comme parler coquillette à la Tour d'Argent. Ou Matmata à Mélanie Bauer. Bon, il y a une petite barrière culturelle, hein, on va dire. Ne le faites pas chez vous, c'est dangereux. En revanche, parlez des paradis fiscaux aux actionnaires de la BNP.
Bon, là, c'est de l'hypocrisie, là.
Ah oui?
Ah, c'est de la grosse hypocrisie, là.
Pourquoi, là?
Bon, les paradis fiscaux, il y en a partout, et donc tout le monde arrive à cacher son argent, il y a toujours des magouilles, donc...
Et alors, le fait que la BNP fasse beaucoup de magouilles, est-ce que c'est pas gênant?
Les particuliers en font, les politiques en font, tout le monde en fait, donc ça me dérange pas.
Vous en faites?
J'ai fait une magouille, j'ai trouvé un ticket de métro par terre qui était valable, j'ai l'utilisé.
Oh, le bad boy! Ah, oui. Oh, le dingo! Oh, le punk à chien! C'est vraiment comparable, hein, avec des tournées des centaines de milliards pour qu'ils échappent à l'impôt, c'est vraiment, vraiment bien la preuve qu'on est un peu tous hypocrites. Regardez, moi, je fais le malin, l'autre jour, j'ai repris 2 fois des frites à la cantine, le responsable m'a dit « Allez, c'est pour moi, je te les offre. » Ben voilà, c'est mon petit côté rebelle, voilà, c'est ça, c'est de l'abus de bien social, ni plus ni moins. L'hypocrisie est partout.
Et les Américains, les Russes, les Chinois, ils sont pas dans les paradis fiscaux. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple. Je crois que l'entreprise fait des efforts, au moins dans la communication.
Au moins dans la com.
Ça va vers le mieux.
Voilà, au moins dans la com, ils font gaffe. C'est vrai qu'avant, ils en avaient un petit peu rien à foutre, mais maintenant, ils se planquent. Ben, la preuve, ils m'ont pas laissé rentrer. Voilà, c'est qu'ils sont un tout petit peu meilleurs dans la com. Et qu'ils sont un peu fébriles, parce que je suis quand même plus proche de Bozo le clown que d'Élise Lucet. Mais bon, je suis un petit peu taquin, c'est vrai.
Non, mais si vous voulez, bon, paradis fiscaux, oui, mais bien sûr, bon, que voulez-vous?
Parce que les paradis fiscaux, c'est moins d'argent pour le service public, les hôpitaux, les écoles, etc.
Oui, mais vous savez, vous croyez qu'on fait du commerce avec des bons sentiments? S'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux.
Oh, ou les enfers fiscaux comme la France. Et Bruno Le Maire, on appelle Bruno Lucifer entre nous, hein, qui est intraitable avec les fraudeurs. Vous avez vu ce qu'il a fait avec les GAFA, il leur a dit « Allez, oh !» Voilà, c'est tout, mais quand même, ça fait froid dans le dos. Et qui dit froid dans le dos, dit réchauffement climatique. Et allez, je suis pas champion d'Europe de la transition pour rien. Ça tombe bien, la BNP, c'est la banque spécialiste des financements des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les actionnaires ?
Je ne savais pas. Ouais. Bon, il y a un bon dividende, quoi. Il faut pas le rater, quoi. C'est important aussi. Hein.
Oui.
Parce que s'il n'y a pas d'actionnaires, il y a pas de... Ou alors, on nationalise tout, et puis voilà, quoi. Comme ça se passe dans les pays autoritaires, quoi. Voilà.
Ouais, mais alors vous préférez un bon dividende à une planète vivable ?
Ah bah ça me gêne pas. Hein.
Bon, c'est vrai que quand t'as 90 balais, t'es tout de suite moins concerné par l'avenir. Hein. On va pas reprocher à un cul de jatte de pas s'inquiéter du prix des baskets. Ça, c'est... Non mais c'est vrai, on peut pas lui en vouloir, hein, ce brave homme. Et c'est vrai qu'à la BNP, les énergies fossiles, ça les inquiète, mais vraiment pas des masses.
Il faut bien que la banque fonctionne, sinon elle va trouver son argent où. Il faut être réaliste et faire évoluer les choses, ça je suis tout à fait d'accord.
Là, ils évoluent pas.
Mais il faut y aller doucement.
Est-ce qu'on a le temps d'y aller doucement face à l'urgence climatique?
Je pense que oui.
Oui, on peut y aller tranquillou. Ouais.
Il y a d'autres réchauffements climatiques qui ont eu lieu il y a des milliers d'années.
Ah, donc là, vous n'êtes pas inquiet?
Non.
Voilà, il y en a eu d'autres, ah, des réchauffements climatiques. Et puis, on n'en est pas mort, puisqu'on n'y était pas, de toute façon. Voilà, arrêtez de nous emmerder et de nous inquiéter. La fin du monde sera donc intégralement financée, parce qu'on trouve de l'argent pour sauver les banques, mais pas pour sauver les pauvres ni la biosphère. Donc la BNP, la banque d'un monde qui change, oui. Empire.
Merci Guillaume Meurice.
Je vous en prie.
Ne changez pas de banque tout de suite.
Non. Je reste au Crédit Coopératif.
Je pense qu'ils ne vont pas vous faire un pont d'or pour vous faire venir. Clara Dupont-Monod, sujet suivant, choisi par Philippe Cobert.
Et oui, un grand philosophe disait « Encore un matin, ou juge ou coupable », c'est Jean-Jacques Goldman. Bon. Et il n'avait pas tort, comme d'habitude. Depuis près de 60 ans, l'ancien brigade rouge Luigi Bergamine vit avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une extradition. Pas simple comme vie.
C'est bon, j'ai pas été suivi.
Par qui ?
Trop de questions, Couchard. Bien, camarade, avant de commencer, il va falloir accoucher nos identités. Si jamais on se faisait capturer par l'ennemi, question de prudence. Dorénavant, vous m'appellerez Moby Dick. Toi, Couchard, qu'est-ce que t'as choisi comme nom ?
Rex.
C'est bien. Le pain ?
Vivaldi.
C'est très joli. Monnier ?
Monnier.
Non ? Bah non. Fin. Tu t'appelleras Biba Peloula.
Non, moi je préfère Schizma et Bébé.
Non, mais pas comme là.
Alors, c'était Les Tuches 4, hein, oui, le film d'Olivier Barou. Mm-hmm. Philippe Cobert, c'est un sujet que vous souhaitiez aborder.
Oui.
Pourquoi ?
Écoutez, Luigi Bergamania est un homme d'une très grande valeur, il est venu voir mes spectacles, on s'est connus à ce moment-là, on a beaucoup parlé, et puis, il a tué personne, il a fait partie d'un groupe qui d'ailleurs n'est pas les Brigades Rouges, qui était un groupe parallèle, il a été ultra-gauchiste. Et il est accusé de, je l'ai marqué parce que, de concours moral aux tragédies qui ont eu lieu à cette époque-là. Et le concours moral à tout ça, alors là, je crois qu'il faudrait mettre l'Europe entière en prison. Moi, j'étais sympathisant de la Ligue communiste quand j'étais jeune homme. J'étais pas le seul. Il y en avait d'autres qui étaient sympathisants maoïstes. Et donc, on est tous complices de quelque chose qui a été en Italie une guerre civile. Et une promesse a été faite solennelle par François Mitterrand avec le président du Conseil italien de mettre les personnes qui avaient fait partie de ces groupes-là à l'abri. Et en France,
c'était
ils ont refait leur
échange,
vie.
C'était même un échange, Philippe. C'était même plus qu'une promesse, c'était un échange.
Ben, vous saviez mieux que moi.
Non, parce que oui, François Mitterrand s'était engagé à renoncer à l'extradition en échange d'un renoncement à la lutte armée.
Ah, bien entendu.
Il y avait un vrai échange entre les deux.
Bien entendu. Il y a eu une parole solennelle qui a été faite par l'État français et encore une fois avec l'État italien. C'est pas uniquement
vous d'un côté. Et je pense que, encore une fois, qu'avec quelqu'un qui n'a aucun, quand il y a des crimes, des choses, c'est une autre affaire, qui n'a absolument, bon, on pense aux victimes, etc., mais qui n'a pas de sang sur les mains, qui a fait partie de la grand mouvement révolutionnaire de cette époque-là. L'Europe entière, la jeunesse de l'Europe entière en a fait partie pour majeure partie. Je trouve ça monstrueux de penser qu'il a mon âge, à peu près, qu'on va l'envoyer en prison pour ses derniers jours, pour avoir fait partie de ce qu'a été la grande révolte populaire des années 70. Si dans 40 ans, on envoie en prison toutes les femmes qui se sont battues pour le mouvement féministe aujourd'hui, parce que ça sera plus la mode dans 40 ans, ce que je ne souhaite pas. J'essaye de faire l'humour un peu comme vous. Parce que depuis que je suis là, j'ai l'impression que je casse le moral, je suis là pour annoncer la mauvaise nouvelle, donc j'essaye un peu de mettre l'ambiance.
Vous surnagez,
Vous voyez, non, sans blague, voilà, je trouve que c'est, alors encore une fois, c'est un combat que mène Marie Dosé avec moi et qui m'informe de tout ça, mais vraiment, je trouve que respecter la parole donnée par l'État français est quand même la base de la démocratie et la base, le fondement de ce que c'est qu'un État, quoi, voilà.
Ben merci, Philippe Cobert, et préparez-vous pour le troisième sujet, parce qu'il va y avoir moyen de rigoler, c'est sur Plus belle la vie.
Ah,
oui, on attend votre avis de comédien sur le dossier.
Vous êtes vraiment un peu fumé avec moi.
Ah oui, mais comme ça, on varie.
Mauvaise nouvelle, tout.
Mais avant ça, c'est Monsieur Poulpe.
Oui, salut tout le monde, ça fait trop longtemps, vous m'avez trop manqué. Mais non, je rigole, je suis comédien, j'ai joué dans YouTube. Mais je suis pas comédien autant que vous, Philippe Cobert. Vous jouez des drames dans des grandes pièces, alors que moi, je joue un drame dans des petites pièces. Genre mes toilettes, par exemple, j'ai fait un drame terrible hier, je vous raconte pas le délire. Mais on a quand même plein de points communs, Philippe Cobert. Vous êtes né un 21 septembre.
Ouais.
Et moi aussi, je suis né. Donc vous voyez, déjà, ça commence. On a déjà un premier point commun, pas mal. Vous avez 3 Molières, et moi, j'ai eu un tiers de Mol hier. Voilà, pareil.
Oh là là.
Et puis vous brillez sous les feux de la rampe, et moi, je mange des carottes parce que je suis italienne. Et donc là, vous n'avez pas compris cette blague, et moi non plus. Donc du coup, on a vraiment énormément de points en commun, c'est assez dingue. Plus sérieusement, Monsieur Cobert, vous m'avez énormément marqué par un de vos rôles en 2007, dans le film Truand.
Ah.
Vous jouez un parrain de la pègre, Claude Corti, doté d'un tempérament plus assassin qu'une pizza Buitoni. Ouais. On écoute un extrait de ce film.
Un homme, vous savez ce que c'est ? Putain, mais vous savez ce que c'est, un homme ? Un homme ! Moi, j'en vois un tous les matins dans ma glace. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on me baisse pas, moi. On me baisse pas. Putain, on baisse pas, Claude Corti. Je me beurre pas l'arrêt, moi.
Je me beurre pas l'arrêt, moi.
Ouais.
Claude Corti m'a tellement inspiré que je me suis inventé un alter ego qui fait des alters. J'ai créé Poulpe Corti. Un vrai vénère qui a peur de rien, comme Claude Corti, mais en moins bien joué. Mon élocution est en train de faire un AVC apparemment. Par exemple, pour ce nouveau quinquennat, on envoie Poulpe Corti. Il rentrerait dans le bureau du président et ça ferait ça.
Dis donc Manu, moi c'est Poulpe Corti, et on me fait pas ruisseler l'arrêt en me supprimant l'USF, moi. Avec ton Elisabeth sévèrement bornée, vous allez commencer par vous occuper de l'hôpital et du système scolaire, parce qu'une fois que j'aurai sorti la boîte à beigne et le fusil à couilles, vous allez avoir besoin de deux choses. L'école, pour apprendre à parler, et l'hosto, pour apprendre à marcher. Vous allez voir les baltringues, le seul 49.3 qui vaille, c'est le calibre de ma sulfateuse à roubignol qui défouraille. Et là, je peux te dire que les marcheurs, ils vont boiter.
Voilà, après, ce qui est super,
vous êtes tout rouge.
C'est la violence. Ouais. Après, ce qui est super, c'est qu'on peut envoyer Poulpe Corti dès qu'il y a un problème. Par exemple, dans le bureau du président de Buitoni.
Dis donc, Tony Buito, moi c'est Poulpe Corti, et on me tartine pas la brochetta, moi. Alors tu vas retirer tes merdes du marché, tu vas t'excuser auprès des victimes, et avec tes actionnaires, tu vas payer avec fromage et intérêt. Sinon, je vais t'étaler faire son margarita, la fameuse pizza aux phalanges de Poulpe Corti. Ah, ça va sentir le parmesan dans les calbars. Hé, Buito, j'ai un tuyau. Dans le milieu des pizzas, t'es tricard, mais tu mérites de te reconvertir dans le business des pâtes, à Fleury, spécialité double peinée.
Voilà, après il y a plein d'endroits en fait où on peut envoyer Poulpe Corti, on peut l'envoyer par exemple à gérer l'inflation, l'invasion en Ukraine, même l'inflation en Ukraine, mais il y a quand même un problème majeur où les puissants se moquent du bas peuple. Philippe Cobert, voulez-vous que Poulpe Corti intervienne dans le studio de l'émission Par Jupiter?
Pas de problème, oui. Mais vous savez, Je suis très fier de ce rôle parce que je, avec mes spectacles, je touche quand même un public, comme on dit, bobo, etc. Et je suis devenu un acteur, mais vraiment, pas seulement populaire, mais fétiche dans les prisons, parmi les détenus, parmi la population des détenus. Mais je plaisante pas. Et j'en sais quelque chose. Encore une fois, par Marie Dosé qui me raconte. Et un jour, j'ai fait une signature. J'écris, et c'est Philippe Cobert. Et le gars lui dit, mais c'est quoi, Philippe Cobert? C'est quoi? Moi, je veux Corti. Je veux la signature de Corti. Donc je fais Claude Corti, et là, voilà. Donc vraiment, je suis très fier, et toute la population de la nuit, les taxis, les trucs, je suis devenu un acteur fétiche de tout un public que je ne touchais pas.
Ce personnage est hyper marquant, vraiment, et je vous dis, je suis très ému de vous voir en vrai, de vous dire bravo pour ce rôle.
Oui, faites attention à votre genou, parce que
c'est vrai,
j'ai ma chignole.
Je termine ma chronique. Vous me donnez le top.
Je croyais que j'avais le droit de parler.
Mais il faut, bien sûr, vous avez le droit.
Dans cette émission, non.
J'y vais.
Allez.
Dis donc, Vizorek, j'aime pas tes cheveux. On me badigeonne pas les poils du derche avec du pento, moi. Marie, c'est le même tarif. Faudrait voir à pas me prendre pour une petite vieille des Républicains que ton bobine à grands coups de micro-trottoir dans l'arrière-train. Et tu vas vite te rendre compte que, contrairement à toi, y a rien de micro chez Poulpe Corti. Mélanie Bauer et Dupont Mono, monsieur dame, les tôlières qui étaient déjà là à l'époque pour acheter de la schnouf en ancien franc. Et puis j'ai une pensée pour Charline Von Hennecker, dit le Belge, qui nous écoute en ce moment. Toi, t'es super, ma crémeuse. T'es la fleur du matin dont la rosée se délecte avec grâce et volupté. T'es un miracle d'innocence et de beauté dans la grisaille morne et terne de mon quotidien désabusé. Quand ma rétine s'éclate sur tes arguments, ma mère, je suis comme une clope dans un sandard, écrasé par tant de noblesse. Et ouais, c'est pas parce qu'on est un mâle alpha toxique qu'on sait pas reconnaître la beauté ou se placer auprès de la bonne personne pour être sûr d'avoir une chronique l'année prochaine. Au revoir.
Merci, Poulpe. Donc voilà, pour moi, vous étiez le père Pagnol, et pour Poulpe, vous êtes Corti, et pour certains, vous êtes Molière.
Voilà.
Merci, Philippe Cobert. Alors, il y a un troisième sujet, mais j'annonce d'abord, parce que comme vous avez beaucoup de talent de comédien, les gens vont vous voir sur scène.
Ah, tu sais.
Bien sûr, à Paris en septembre, mais ça rôde à Nantes, à Lille et à Marseille, et sur le compte Insta de Monsieur Poulpe, on peut le voir, enfin, il va venir au One Man Show.
Exactement.
Troisième sujet, Clara.
Eh bien oui, puisque lancé en 2004, Plus belle la vie va s'arrêter définitivement le 30 septembre 2022. Ce feuilleton quotidien diffusé sur France 3 aura tout de même eu une durée de vie quand même un peu plus longue que la carrière ministérielle de Manuel Valls ou celle musicale de François Feldman, et je le regrette. Mais vous qui vivez près de Marseille, Philippe Cobert, est-ce que ça vous touche particulièrement ou pas plus que ça?
Écoutez, je mentirais en disant que je suis un fan de cette série dont j'ai dû voir 3 secondes par-ci par-là. Par contre, je suis un fan absolu de l'une de ces comédiennes qui s'appelle Laetitia Milo. Avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur La femme du boulanger avec Michel Galabru. Et même mieux que ça, nous avons fait ensemble une lecture de Don Juan. À l'époque, je voulais monter Don Juan avec Michel. Je lui ai fait lire Charlotte, et j'ai découvert que dans ces feuilletons où ils travaillent de 12 heures par jour, ils apprennent à faire du théâtre mieux que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles de théâtre, et elle était absolument merveilleuse dans le rôle, elle comprenait tout ce que je lui demandais, et c'est quelqu'un avec qui je suis resté très proche, mais vraiment, on était sur le cul tous de voir ça. Son métier, le métier qu'elle avait acquis dans cette...
Mais justement, jouer aussi longtemps sur un rôle, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça enferme pas? Et peut-être vous-même, avec le personnage du père Pagnol, vous avez connu ça? Les gens vous voient pas ailleurs?
Ça, c'est autre chose. Le père Pagnol, je l'ai joué une fois.
La gloire de mon père, le château de ma mère. Mais...
Oui.
Là, je veux dire, c'est-à-dire qu'on vous fixe là-dedans, comme peut-être elle aussi.
Ça dépend des publics. Regardez, détenus, ils ont vu Corti.
Que je représente.
C'est autre chose. Moi, j'ai fait surtout, j'ai consacré ma vie au théâtre et à mes pièces, parce que tout ça a été très... Voilà, donc la carrière de cinéma m'a pas vraiment emballé plus que ça. Je suis très fier de ma filmographie. Molière, La gloire de mon père et Corti, je suis ravi. Je sais pas si peut-être Laetitia Milo... Non, mais je veux dire, il y a toujours un peu une condescendance avec les acteurs qui jouent là-dedans, et c'est complètement faux. C'est une école de théâtre et une école de jeu à nul autre pareil.
Merci. Alors, on termine par le Jupi Proust. Des questions courtes, des réponses aussi courtes. Attention, sur un tapis musical, évidemment, il n'y a pas de hasard. Ça sent la cigale. Sur une échelle de 0 à 10, des comédiens de talent. 10 étant Gérard Philippe, 0 étant Valérie Pécresse. Vous vous situez à combien?
Qui est quoi, pardon?
10, c'est Gérard Philippe. 0, c'est Valérie Pécresse. Où se situe Philippe Cobert lui-même?
Je sais pas, 2.
La
modestie.
Vous devez supprimer une chose qui vient de Marseille. Vous choisissez l'accent, l'OM ou la bouillabaisse.
Allez, l'OM.
Avec quel homme politique pourriez-vous partager la scène si on vous obligeait à en choisir un?
Alors là, il faut que je réponde vite.
Louis VII, ça marche aussi. Hein.
Le nouveau maire de Marseille, allez. Je sais pas son nom, mais c'est l'avenir.
Bien et joué.
Surtout, il n'y a plus l'ancien.
Avec quelle femme politique feriez-vous un Paris-Marseille en train de nuit?
Oh non, mais ça c'est très...
Pour parler
hein, oh là, je sais pas, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, là vous me prenez au dépourvu, avec 2 ou 3 en tout cas.
D'accord, au moins ça. Si vous pouviez vivre toute votre vie dans la peau d'un personnage de Molière, lequel choisiriez-vous?
Scapin.
Si on devait faire votre biopic, vous choisiriez qui pour jouer le rôle de Philippe Cobert? Pas vous, bien sûr. Qui aimeriez-vous?
Écoutez,
vous pouvez dire Francis Huster.
Non. Ah ben non, si c'est pour un biopic, il faut faire reprendre un jeune. Alors, Adèle Exarchopoulos.
Ah ben, excellente réponse et très bon choix. Merci Philippe Cobert, grande actrice, qu'on retrouve dans Le Flambeau bientôt.
Je trouve que c'est une immense comédienne.
Bah oui, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous et on vous verra dans Les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet.
Je voudrais juste citer une chose, parce que c'est monter Alphonse Daudet dans le milieu théâtral intellectuel est considéré comme une chose un peu insolite et Yann Moix, qui est venu voir la pièce, a fait un mot qui me poursuit. Il m'a dit, mais t'as pas monté Les Lettres de mon moulin, t'as monté Les Lettres de Jean Moulin. Voilà.
Mais écoutez, cautionné par Yann Moix, je sais pas ce que...
C'est peut-être pas une bonne nouvelle.
C'est toujours vrai.
Merci en tout cas, Les Étoiles au Festival Off d'Avignon. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Demain, c'est Jupy Class, le premier, sans Jean-Michel Blanquer.
Ah oui.
Petit hommage.
Partir un jour sans retour, se retourner, ne pas regretter,
salut Jean-Michel.
Garder les instants qu'on a.